Les États-Unis ont fortement renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient en réponse aux tensions croissantes avec l'Iran, la répression des manifestations en interne, la poursuite du programme nucléaire et balistique, en tout cas affirmé par le régime, ainsi que les menaces régionales. Le groupe aérodaval, centré sur le porte-avions Abraham Lincoln, est arrivé dans la zone CENTCOM, c'est-à-dire le Moyen-Orient, fin janvier, après un détournement rapide depuis l'Indo-Pacifique, et il opère actuellement en mer d'Arabie du Nord, voire à l'entrée du golfe Persique. On a également observé le déploiement accéléré de systèmes TAD et Patriot sur les bases américaines au Moyen-Orient afin de protéger contre les missiles iraniens potentiels les alliés arabes et évidemment Israël. Trump décrit tout cela comme une armada massive prête à agir avec vitesse et violence si nécessaire pour forcer l'Iran à négocier un nouveau deal sur le nucléaire et sur les missiles balistiques et bien sûr arrêter la répression des protestations. Le président américain a également mentionné une seconde flotte américaine qu'il a évoquée comme étant en route vers l'Iran, en plus du groupe aéronaval déjà déployé autour du porte-avions Lincoln, mais aucune information de source ouverte n'a confirmé ce déploiement. Côté iranien, on a vu le déploiement massif de vedettes rapides des gardiens de la Révolution près du groupe aéronaval du Lincoln, le porte-drone Shahed Bagheri près de Bandar Abbas, et le guide suprême Khamenei a indiqué que toute attaque américaine déclencherait une guerre régionale. Les Russes et les Chinois montrent des signes clairs de soutien stratégique accru à l'Iran face à la montée en puissance américaine, sans pour autant, pour l'instant, franchir le seuil d'une implication militaire directe ou massive. Pékin a dénoncé à l'ONU l'aventurisme militaire américain au Moyen-Orient, affirmant que cela risque de plonger la région dans le chaos. Moscou s'est également aligné sur le narratif iranien en appelant à la négociation, en voyant de la place sur la discussion et en répétant que toute frappe US déclencherait une guerre régionale. La situation est très tendue, mais pas encore en phase de confrontation ouverte. Les deux côtés montrent des signes de dissuasion mutuelle et il semble que les canaux diplomatiques soient maintenus ouverts pour éviter l'escalade, avec notamment une tentative turque de médiation. Dans ce contexte, apparaît la rumeur d'une signature récente d'un accord stratégique trilatéral Iran-Chine-Russie qui a été rapporté le 29 janvier 2026 ou autour de cette date selon les sources, notamment par le Middle East Monitor, selon lequel ces États ont formellement signé un pacte stratégique trilatéral complet. Il s'agirait alors d'un développement géopolitique majeur, peut-être un des changements les plus conséquents des relations internationales au XXIe siècle. L'Iran sera-t-il le point de départ d'une confrontation mondiale ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 1er février 2026. Il est 21h39. Bienvenue dans cette émission. Je vous remercie d'être là. J'ignore à quel point vous êtes nombreux pour l'instant. Déjà 300 personnes, c'est pas mal. Ça montre que vous êtes effectivement nombreux à nous rejoindre. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas réserver les annonces à la fin de l'émission. Parce que comme on est en train de faire le tri, vous l'avez vu, on a lancé un petit sondage sur les retardataires pour s'assurer que les soutiens, tout le monde est bien au clair, parce que comme j'ai pris l'habitude de faire les annonces en fin d'émission, peut-être que tout le monde ne va pas jusqu'au bout. On a fait une petite mutation, désormais les contreparties qui vous sont présentées, que je mets désormais en image d'intro, ne sont plus accessibles via Tipeee. Tout a été transféré sur YouTube parce que ça sera plus simple pour nous à mettre en place, ça évite de faire des doubles liens pour les émissions, etc. Donc désormais c'est tout par YouTube. Alors si vous êtes des tipeurs, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à tiper en fin de mois de janvier. Attention, si vous voulez les contreparties, il faut basculer sur YouTube. Donc à ce moment-là, annulez votre tip, venez sur YouTube, ça sera plus simple à gérer. Voilà, bien sûr, vous pouvez toujours continuer à faire des petits ou gros dons sur Tipeee, c'est avec plaisir. Mais si vous voulez les contreparties, il faut venir via YouTube. C'est l'occasion de rappeler que faire un petit point. Notamment parce que, vous savez, on a lancé la très grande campagne de promotion de la chaîne. En gros, c'est pour avoir de la visibilité sur YouTube. Ça ramène du monde, j'en suis très content. Visiblement, une certaine partie d'entre eux sont là, puisque vous êtes déjà nombreux à l'ouverture de l'émission. C'est rare qu'il y ait autant de monde. Donc, je pense que c'est que ça fonctionne bien. Tout ça, bien sûr, il faut le financer. Donc, on a besoin de votre soutien. Mais aussi, ce que ça implique, c'est qu'il est vraisemblable qu'on atteindra enfin, et j'en suis très fier, le seuil des 100 000 abonnés cette semaine, si tout se passe bien. Si mes calculs sont exacts, parce que je commence à bien connaître l'algorithme YouTube. Enfin, je crois le connaître. Il peut encore m'humilier, mais voilà. Et donc, si vous êtes spectateur depuis longtemps ou moins longtemps, que vous avez envie de rejoindre l'aventure, je rappelle que l'aventure, ça consiste à quoi ? Ben, ça consiste à financer mes travaux, parce que, encore une fois, moi je suis ce qu'on appelle chez les Anglais un independent scholar, un chercheur indépendant, hors du circuit académique, même si on est en train de faire de gros efforts pour s'y intégrer, hein, avec la revue scientifique qui sera publiée à partir du printemps, grâce à la montée de la communauté, d'ailleurs, c'est un gros succès de la communauté YouTube. Et donc toute cette chaîne YouTube, son but, en fait, c'est toujours de soutenir mes travaux et ma démarche scientifique. Voilà. Je ne suis pas un YouTuber qui vous dit « j'ai envie de vivre de mes vidéos de YouTube », pas du tout. J'ai envie de travailler sur mes recherches, c'est surtout ça, et de les faire avancer. Et donc depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, sur cette chaîne, j'essaie de faire en sorte à la fois de diffuser mes travaux en utilisant l'actualité notamment comme vecteur, parce que c'est comme ça que ça vous intéresse. Et j'essaie aussi, pour encourager et remercier ceux qui font l'effort de nous soutenir, de créer des contenus qui soient consommables, on va dire, par vous, mais sur la base de ces travaux, qui restent des travaux théoriques fondamentaux malgré tout. Donc qui ne sont pas forcément sexy en soi, mais que j'essaie de rendre sexy dans des contenus qui viennent sous forme de contrepartie. Toute l'offre, vous la connaissez, elle est diffusée maintenant de manière régulière, je vous la mets toujours en tête d'émission. Et donc, si vous voulez nous soutenir, ce qui est très important, notamment pour votre orgueil personnel, c'est qu'il vous reste en gros quelques jours pour pouvoir dire plus tard « j'étais là avant que Fabrice soit à 100 000 abonnés ». Donc, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de nous rejoindre sous une forme ou sous une autre. Ça nous aidera bien à continuer ces efforts-là. Et je rappelle que le nouveau type de format de Super Live privé, qui sont accessibles via le troisième palier, vous en avez un exemple désormais qui est dans la liste des essentiels en accès gratuit. Comme ça, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Nouvelles émissions de 3 heures qui, je crois, sont bien appréciées par nos abonnés. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus, et je vais basculer sur le sujet du jour. Alors, vous aurez noté donc que j'ai eu quelques minutes de retard, alors que ça ne m'arrivait moins. Mais parce qu'en fait, justement, en fouillant un petit peu pour préparer l'émission, et notamment pour préparer l'intro, j'ai découvert cette nouvelle qui m'avait échappé ces jours-ci, j'étais un peu pris, mais qui, semble-t-il, a échappé à beaucoup de monde, parce que... C'est l'IA, c'est Grok qui me l'a sorti tout simplement alors que je l'interrogeais sur les tout derniers développements pour pas rater d'actualité importante et qui m'a mentionné cette histoire d'accord trilatéral entre l'Iran, la Chine et la Russie. Et ça m'a surpris parce que je l'avais même pas vu passer dans toutes les news que je vois passer sur le canal Telegram. Et on en avait même pas discuté. Donc je me suis dit que c'était bizarre que je l'ai pas vu passer. Donc, et quand j'en ai pas entendu parler, il y a de fortes chances que ce soit fake souvent. C'est pour ça que je me suis méfié. Alors je suis allé vérifier, je suis allé demander à ChatGPT. Qui m'a dit qu'effectivement il y avait quelque chose comme ça. Donc je vais vous en parler. On va commencer par ça peut-être parce que c'est une... C'est une nouvelle quand même qui me paraît assez intéressante, même si semble-t-il ça va pas chercher loin, c'est pas véritablement de l'accord militaire, et d'ailleurs apparemment la Russie a d'ores et déjà dit que elle ne s'impliquerait pas militairement au soutien de l'Iran, mais il y a quand même des choses qui vont se décider un petit peu autour de ça. Alors je vais vous afficher la fenêtre si ça veut bien le faire. Non, il faut que je la recalibre. Voilà, c'est ça. Très bien. Tac, alors voilà ce que me dit ChatGPT. sur ce sujet, qu'un accord donc trilatéral entre l'Iran, la Russie et la Chine a bien été signé récemment, mais ce n'est pas un traité militaire d'assistance mutuelle au sens strict. La portée est stratégique, politique et coordonnée avec des volets économiques et militaires. Donc ce qui s'est passé apparemment, et en fait tout ceci vient essentiellement d'un article qui a été publié, qui est ici, dans le Middle East Monitor, qui en général est quand même fiable, de ce que j'en sais, qui a sorti cette info-là. Et donc c'est sourcé. Le 29 janvier 2026, les trois pays ont annoncé la signature d'un pacte stratégique trilatéral visant à approfondir leur coopération et coordonner leur politique sur plusieurs dossiers, sécurité, diplomatique, diplomatie et économie. Cette déclaration conjointe a été décrite par les médias d'État comme une étape importante vers une coopération plus étroite, notamment face à ce qu'ils appellent la pression ou la domination occidentale. Alors ça serait pas une alliance militaire formelle, mais de ce que j'en ai vu, parce que j'ai posé aussi la question à Grok, c'est surtout pour se présenter un front uni, notamment sur les questions de sanctions, semble-t-il, commerciales de la part de l'Occident à l'encontre des pays. Donc, comme je vous dis, j'en ai pas trouvé trace dans la presse, et très honnêtement, c'est pour ça que j'ai demandé à Grok, et ensuite j'ai demandé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les deux IA ont l'air de dire « oui, c'est vrai, c'est sourcé ». Et d'habitude, quand c'est pas fiable, l'une comme l'autre, IA a tendance à me dire « oui, mais c'est pas vérifié ». Donc ils ont l'air de... Alors soit l'IA considère que le Middle East Monitor, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Voilà, je vous laisse ça. C'est pour ça que j'ai parlé de rumeurs simples dans mon introduction. L'information semble quand même assez vérifiée. Pourquoi la presse n'a pas parlé encore? Parce que 29 janvier, ça fait quand même du 3 jours. Normalement, ça serait sorti. Mais enfin, c'est bizarre qu'on ne l'ait pas vu non plus sur X. Donc voilà. En tout cas, on ouvre un petit peu sur cette idée-là qui serait quand même assez importante. Si c'est vrai, c'est très grave, comme on dit. Alors, ça va pas, encore une fois, au niveau de l'alliance militaire directe, mais ça montrerait un signal donné, notamment du côté de la Russie et de la Chine, au soutien de l'Iran. Donc ça me paraissait quand même une information importante, qui sera un petit peu en arrière-plan de ce qu'on va dire par la suite. Mais donc on va s'intéresser à ce déploiement militaire américain et ses éventuelles conséquences. Donc je vous ai trouvé cette carte, je ne sais plus si c'est sur... c'est un truc... je crois que c'est turc, vu le sigle en bas qui sort. Je crois que c'est l'agence... c'est pas l'agence Anadolu, je sais plus. Toujours est-il, voilà, le déploiement actuel ces temps-ci américain. Alors je crois que la date est du 30 janvier, donc c'est quand même assez récent. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. On continue toujours à avoir des avions qui semblent ramener du matériel, mais je pense pas qu'il y ait d'autres appareils qui soient arrivés. En tout cas, j'ai pas trouvé de... Il semble avéré que... j'ai lu plusieurs analyses qui vont dans le même sens que ce que j'ai pu trouver, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a aucune idée de quelle est l'autre armada qui venait. Parce que moi, quand Donald Trump a parlé d'une deuxième armada, la première chose que je me suis dit, c'est deuxième armada, tout le monde pense deuxième porte-avions. Donc on a essayé de savoir quel était l'autre porte-avions qui était envoyé. Et visiblement, il n'y en a pas. En tout cas, il n'y a pas eu d'info qui est sortie là-dessus. Donc pour l'instant, c'est essentiellement l'armada qui est sur place, qui existe. Alors peut-être qu'il y en a une autre qui est en train de se déplacer dans le plus grand secret. Mais pour l'instant, on n'a pas vu. Donc, qu'est-ce que tout ceci va donner? Parce que la grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Donald Trump va frapper? Ce qui ressort de ces dernières heures et de ces derniers jours, de ce que j'ai suivi, c'est naturellement d'un côté l'hésitation américaine. Hésitation américaine qui a plusieurs raisons évidentes. La première, c'est que déjà les voisins, dans la... je vais mettre dans le sens pour pas... les pays arabes voisins n'ont pas très envie d'une intervention américaine parce que ils ont peur que ce soit le bazar, hein, ce qui est assez logique. Vous ne voulez pas, vous préférez avoir un État autoritaire qui réprime très durement sa population à vos frontières plutôt qu'avoir un État totalement failli qui sombre dans la guerre civile. Ce qui fait évidemment beaucoup de morts aussi, hein. Songez à la Syrie, où il y a eu, je crois, plus d'un demi-million de morts et des millions de déplacés. Vous préférez qu'il y ait 20, 30, 50, 100 000 éventuellement personnes qui soient tuées dans le pays voisin et que rien ne bouge et que tout reste business as usual, plutôt que de voir ce pays de 90 millions d'habitants, qui est grand comme la moitié de l'Europe, s'effondrer, effectivement, et devenir une espèce d'énorme Syrie entre 2011 et 2024. Vous ne voulez pas que ça ressemble à ça. Et donc, ils ne sont pas chauds, naturellement. Et semble-t-il que même ils disent qu'il y a un renversement intérieur, pourquoi pas, mais avec l'idée qu'un renversement depuis l'intérieur, ben, ça serait un renversement qui serait à peu près propre, quoi. C'est-à-dire qu'il y aurait éventuellement un changement de pouvoir avec un nouveau pouvoir relativement fiable qui tiendrait le pays. Ils ne veulent pas que ce pays devienne un champ de bataille, en fait. Et de ce point de vue-là, on peut les comprendre. Et pour les Iraniens eux-mêmes, oui. Donc il y a une hésitation pour ça. Il y a une hésitation aussi, bien sûr, du côté de Donald Trump, c'est que si c'est pour avoir un succès rapide, ou afficher un succès rapide, ou prétendument rapide, très bien, c'est le genre de choses que peut chercher Donald Trump. Si c'est pour effectivement déclencher une de ces nouvelles guerres au Moyen-Orient dont il a promis qu'il n'y en aurait plus, forcément ça pose un petit peu plus de problèmes. Et le fait est que, pour le coup, c'est très très risqué, et sans doute beaucoup plus qu'au Venezuela, puisqu'on n'est pas sur le même type d'acteur. En plus, il y a les midterms bientôt, donc ça peut être quitte ou double. Si jamais il arrivait, dans le meilleur des cas idéal pour les Américains, à faire une espèce de démolition contrôlée bien propre du régime iranien, et arriver en Trump-arianicus au midterm, celui qui a triomphé de l'ennemi de 50 ans des Américains au Moyen-Orient, ça pourrait le servir pour des midterms pour lesquels il part pas favori d'après les sondages. Mais si au contraire il se retrouve embourbé dans une guerre à la George Bush en Iran, ben à ce moment-là, il risque encore plus d'être fragilisé sur sa base et les midterms risqueraient d'être une déculottée, ce qu'il ne veut certainement pas, parce que ça serait grosso modo la fin de la montée dynamique de son pouvoir. Donc ça peut vraiment être la question du quitte ou double autour de l'Iran. Et donc, il est en train peut-être d'essayer de chercher ce que cherche habituellement à faire Donald Trump, c'est-à-dire un deal. C'est-à-dire, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès, comme on dit. Donc il vaut mieux aussi éventuellement un mauvais accord qu'une bonne guerre. Et donc, ce qui est en train de se discuter, c'est vraisemblablement Donald Trump a remis tout ça, ramené tout ça sur le terrain du strict intérêt américain. C'est-à-dire l'absence de programme balistique de missiles iraniens et l'absence de nucléaire iranien. Et il veut faire plier les Iraniens sur ça. Et la question, c'est... Alors, sur ça, peut-être un certain nombre d'autres choses, comme éventuellement la fin de la répression, mais... Si c'est pour obtenir un deal comme celui qu'il avait eu avec la Corée du Nord pendant son premier mandat, ça, il risquerait de chanter vite victoire pour avoir une victoire facile, mais sans que ça mène très loin. Et puisqu'il serait un petit peu quand même une trahison vis-à-vis de la population iranienne qu'il a dit aider. Mais ce qui l'embête un peu, c'est que comme il n'y a plus de manifestations iraniennes parce que ça a été baigné dans le sang, forcément, il peut avoir l'impression qu'il y a moins de leviers pour faire cette démolition contrôlée qu'il voudrait faire. Alors, on peut quand même se poser une question un instant, même si j'y crois pas trop, est-ce qu'il est possible d'avoir un deal ? En tout cas, dans l'esprit de Trump, on peut l'imaginer, parce que le deal qu'il y a eu, d'une certaine manière, jusqu'ici, avec le Venezuela après Maduro, a l'air de pas mal fonctionner. Les États-Unis arrivent à se faire remettre du pétrole, ils arrivent à limiter la fourniture de pétrole à Cuba, qui vraisemblablement est en train d'en manquer, donc il va peut-être y avoir un deuxième régime qui va basculer, et surtout à plus long terme, parce qu'il y avait la première chose qui a été pas mal dite, c'est oui bon, Maduro est tombé, mais le régime est pas tombé, le régime est toujours là, c'est l'entourage de Maduro qui est toujours au pouvoir, donc ça change rien pour l'opposition vénézuélienne. Ça commence quand même à changer des choses, parce que il y a eu, d'après les informations que j'ai vues, qui semblent vérifiées, il y a eu plusieurs centaines de prisonniers politiques qui ont été libérés, donc forcément des gens qui étaient de l'opposition. Donc, la première service qu'on peut rendre dans l'opposition, c'est de faire libérer ces membres qui sont en taule pour délit d'opinion. La présidente vénézuélienne a, semble-t-il, porté devant la Chambre un projet de loi d'amnistie, précisément, des prisonniers politiques. Auquel cas, c'est quand même un mouvement très important, quoi. Je veux dire, c'est l'ouverture de la Bastille. C'est plus que ça, parce qu'à la Bastille, il n'y avait plus personne, pratiquement. Mais c'est quelque chose qui risque d'avoir un effet important au Venezuela, parce que quand vous libérez les prisonniers politiques, ils ne sont pas en prison pour rien, du point de vue du régime. C'est que c'est un moyen de les empêcher, et quelque part, c'est le seul moyen de les empêcher d'être efficaces, parce que quand vous pouvez neutraliser politiquement les gens, vous essayez de les neutraliser autrement qu'en les enfermant, pour pas passer pour un dictateur. Si vous les enfermez, c'est qu'ils sont trop dangereux, parce qu'ils ont de l'influence, ils sont écoutés, ils sont capables d'argumenter, de présenter les choses, ils ont du succès auprès de la foule, et donc à ce moment-là, vous les enfermez. Bon, à partir du moment où vous êtes obligé de les lâcher pour un régime, ça l'amène forcément derrière à faire d'autres concessions, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des gens capables de se battre intellectuellement et politiquement contre lui, en liberté, et qu'il ne peut pas les remettre en prison pour ce sujet-là. Donc, en soi, c'est quand même un élément intéressant d'une transition relativement en douceur vers un régime plus libre. Alors, ça ne dit pas que la messe est dite. Peut-être que tout ce que ça va finir par provoquer à la fin, c'est que l'opposition va être suffisamment forte à l'intérieur du Venezuela pour essayer de renverser les gens avec lesquels Trump deal, à voir comment la situation évoluera. C'est assez inédit comme la façon dont Donald Trump essaie de gérer ce problème-là. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est que ça donne, dans l'esprit de Trump, une sorte de précédent, ça. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'idée, il peut penser, ou il peut se convaincre tout seul, parce que moi je pense que c'est pas pertinent, qu'il y a moyen de faire un truc comme ça avec le régime iranien. Il y a moyen d'obtenir une victoire, grosso modo, à la face du monde, qui serait un deal dans lequel les Iraniens laissent tomber totalement leur enrichissement nucléaire et leur programme nucléaire, laissent tomber totalement leur programme de missiles balistiques, qui va avec la bombe nucléaire, en fait, hein, c'est l'idée d'avoir le vecteur, et en outre, libérer des prisonniers. Alors, le problème, c'est qu'en Iran, ils les ont tués, essentiellement, donc ils vont pas pouvoir ressusciter les opposants politiques qu'ils ont massacrés, mais enfin, ils les libéreraient en partie. C'est peut-être ce que Donald Trump est en train d'essayer d'obtenir en se disant que si c'est ça ou les bombardements, les types vont accepter. Moi, je pense pas qu'ils accepteront parce que on n'est quand même pas dans la même mentalité au niveau du régime iranien face aux États-Unis notamment, face aux ambitions, à la façon dont ce pays se perçoit. Vous savez, toujours pareil, hein, on fait de l'historionomie ensemble. Donc on réfléchit aux grands mouvements de l'histoire et notamment aux grands comportements, aux grandes décisions collectives des peuples ou des régimes. Et ces décisions collectives, elles sont conditionnées par un certain nombre de facteurs psychologiques et notamment d'auto-perception. Et vous savez, je vous parle souvent, alors je vous ai essentiellement parlé de ça pour les impérialistes revanchards. Le fait qu'il y en a certains qui sont des impérialistes revanchards, on va dire de plein exercice, hein, Napoléon, Hitler, Hannibal, Vladimir Poutine, c'est-à-dire des gens qui s'appuient sur un pays qui est suffisamment puissant ou qui a une vision suffisante de sa propre puissance pour avoir des exigences et se lancer dans un certain nombre d'actions. Mais vous avez aussi des impérialistes revanchards contraints qui, quand leur pays est dans au même stade d'évolution que ces impérialistes revanchards de plein exercice, en revanche, sont des pays qui n'ont pas du tout la même, ce que j'appelle masse stratégique relative, c'est-à-dire le même poids par rapport au contexte et notamment aux pays qui les environnent, et donc forcément ne voient pas les mêmes choses de la même façon. Donc un exemple, c'est vous prenez l'Espagne de Franco. L'Espagne de Franco, par rapport aux autres pays d'Europe, était relativement sous-peuplée, beaucoup plus pauvre, beaucoup moins industrialisée, et donc Franco savait que si jamais il se lançait, par exemple, comme le voulaient les phalangistes, hein, puisque les fascistes espagnols, dont Franco n'était pas, mais les fascistes espagnols qui ont soutenu l'arrivée au pouvoir de Franco, qui étaient nationalistes, voulaient faire une sorte d'Anschluss sur le Portugal, en fait, si vous voulez. Et Franco n'a jamais voulu, et d'ailleurs pour une bonne partie a écarté assez rapidement les phalangistes du pouvoir, après la fin de la guerre civile, tout simplement parce qu'il savait qu'il allait se prendre une branlée s'il faisait ça. Il faisait pas le poids face à la France, il faisait pas le poids face aux Britanniques. Donc c'était hors de question, il n'a pas bougé. C'est pour ça qu'il est resté en dehors de la guerre, d'ailleurs. Il voyait que Mussolini, lui, s'agitait, mais qu'il avait des difficultés contre les Grecs, etc. Donc il ne voulait pas qu'il lui arrive la même chose. Donc Franco n'a pas bougé. Ça, c'est un impérialiste revanchard contraint, que j'appelle. C'est-à-dire qui sait, et il n'est pas tout seul. C'est-à-dire vous avez le leader qui est comme ça, mais qui est aussi entouré de gens qui se rendent bien compte que la situation ne permet pas de faire telle chose. D'accord ? Donc il ne les fait pas. Et c'est vrai pour les impérialistes revanchards, mais c'est vrai à tous les stades de développement d'un pays, si vous voulez. Et donc vous avez des pays qui sont dans ce que j'appelle l'ancien régime, comme le Venezuela par exemple, qui savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de faire un certain nombre de choses. Et le Venezuela, par exemple, c'est très bien qu'ils n'avaient pas les moyens de défier les États-Unis. Alors, ils ont quand même, il y a quand même, on voyait qu'il y avait quand même la tentation, hein, avec Maduro, d'aller chercher peut-être les Essequibo pour récupérer le pétrole, tout ça. Bon, il n'en est plus question depuis qu'ils se sont fait taper sur le nez par les Américains. Mais il y avait quand même l'idée. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous imaginez bien que la perception que les élites vénézuéliennes ont de leur propre pays, de sa place dans le monde et de ses capacités d'action dans son environnement géostratégique, ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'ont les élites iraniennes de leur propre vision. L'Iran était dans une dynamique impériale depuis l'avènement du régime des Mollahs. Il a dominé une bonne partie, la moitié grosso modo, du Moyen-Orient pendant les dernières décennies, jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce qu'il se prenne une déculottée au Liban, en Syrie, dans la bande de Gaza d'une certaine manière. Les Houthis qui tiennent toujours, mais enfin, il a perdu une bonne partie de son dispositif impérial. Mais l'Iran se conçoit toujours comme un candidat à l'hégémonie régionale au Moyen-Orient, avec la capacité de bloquer le détroit d'Ormuz, la capacité avec les Houthis de bloquer le détroit de Bab-el-Mandeb, etc. Et on est face à des gens, notamment Khamenei. Khamenei, ça fait 40 ans qu'il règne sur l'Iran. Il est là depuis 88. Il était là déjà avant, puisqu'il c'était le président iranien. C'est l'équivalent de Pezeshkian, déjà sous Roménie. Donc ça fait presque 50 ans qu'en fait, Khamenei est à la tête de l'État iranien. C'est un type, il ne va pas laisser tomber cette vision de la place de l'Iran dans le Moyen-Orient du jour au lendemain, juste parce qu'il est menacé. Évidemment pas. Et les gens qui sont autour de lui, c'est pareil. Donc ils ont toujours cette vision, si vous voulez, hein, l'Iran a encore des cartes à jouer, qu'il peut encore tenir. Et qu'il a encore, d'une certaine manière, les moyens de certaines de ses ambitions. Qu'il a encore des missiles, en plus il a réussi à se faire rééquiper, notamment par la Chine et la Russie, en partie en tout cas. Donc même si la Russie ne veut pas s'impliquer militairement, envoyer des troupes pour aider les Iraniens, ils leur ont vraisemblablement donné des équipements et ou partagé des technologies qui leur permettent de se défendre. Donc ils ont des missiles, et ils ont de quoi intimider les pays voisins d'ailleurs. C'est pour ça qu'en partie ces pays voisins font pression sur les États-Unis pour pas attaquer tout de suite, que ça a retardé les choses jusqu'à maintenant, parce que c'est pour ça qu'il y a tous les systèmes TAD, les Patriotes, etc., qui ont dû être acheminés par les États-Unis, parce qu'ils n'étaient pas prêts à protéger les voisins, puisque les Iraniens ont dit que cette fois-ci, en gros, ils ne montraient pas en puissance dans les bombardements de missiles balistiques. Ils balanceraient tout dès le début, notamment parce que la dernière fois, comme ils n'ont pas tout balancé dès le début, ils se sont fait détruire un certain nombre de lanceurs par les Israéliens, et que forcément, à la fin, si vous n'avez plus le lanceur, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir les missiles. Donc je pense pas du tout que les Iraniens et le régime iranien soient dans une position dans laquelle il acceptera de céder aux Américains sur la question du nucléaire et des bombardements. Donc dans ces conditions, des missiles balistiques. Pardon. Donc dans ces conditions-là, les chances pour Donald Trump d'obtenir un véritable deal avec lequel il puisse, en tout cas un aspect de deal avec lequel il puisse donner l'impression qu'il a remporté une victoire, sont quand même assez compliquées. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, pour obtenir un deal, il serait obligé vraiment de faire semblant, qui est beaucoup plus intéressant qu'il n'est, un deal qui serait en fait pas très intéressant pour les États-Unis. Donc c'est pour ça que je ne crois pas trop à cette hypothèse vénézuélienne, on va dire. Surtout que l'idée de relâcher les prisonniers politiques du côté du régime iranien, encore une fois, bon, déjà ils les ont tués, c'est une chose, mais en plus on les voit pas aller tellement dans ce sens. C'est des gens en Iran, ils sont persuadés qu'ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir, ils ont réussi encore une fois à mater des rébellions, ils ont réussi notamment, d'ailleurs, ça c'est une chose intéressante, ils ont réussi ça avec l'appui de milices irakiennes, c'est-à-dire des milices qui viennent de leur empire, finalement, de l'empire iranien, sur un pays qui est voisin. C'est pas le pays lui-même, ils sont allés chercher dans l'hétérogénéité des marges, si vous voulez, c'est-à-dire des gens qui étaient capables, et on a vu des images apparaître, dans lesquelles il y a des gens qui... je crois que j'en ai vu un, c'était une femme qui qui criait en persan en iranien, hein, aux miliciens de pas tirer, de pas les tuer, etc. Et on voyait les miliciens qui répondaient en arabe. Donc il y a eu plusieurs milliers au moins de miliciens pro-iraniens arabes irakiens qui sont venus servir de supplétifs au pouvoir et massacrer dans un certain nombre d'endroits en Iran, et donc aider à la répression. C'est toujours utile quand vous voulez vous maintenir et que vous êtes un régime tyrannique, vous allez chercher des gens qui ne sont pas ethnoculturellement du même groupe que ceux que vous voulez faire massacrer. La première règle. Et c'est pour ça aussi que les révolutions nationales se produisent quand vous avez une population suffisamment homogène pour qu'à peu près toutes les forces de sécurité de l'État se reconnaissent dans la population qu'elles ont en face, ce qui rend beaucoup plus vraisemblable le risque de fraternisation. Alors tant que vous êtes dans un système impérial dans lequel les forces de sécurité ont une distance culturelle suffisamment importante avec les gens qu'elles sont censées réprimer, ben, la répression fonctionne et vous n'avez pas de fraternisation. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le phénomène fondamental, si vous voulez, qui dicte tout ça. Donc les Iraniens ont réussi à faire la répression avec ça, donc ils ont toujours des forces également en Irak, avec certains notamment qui bénéficient aussi d'installations souterraines, à partir desquelles elles pourraient attaquer également les présences américaines, mais aussi les intérêts des alliés des États-Unis dans la région pour essayer de faire pression. Donc je ne crois pas du tout que les Iraniens accepteront de se coucher devant les États-Unis. Ensuite, il y a l'hypothèse Alors, je passe sur l'hypothèse simple de Donald Trump qui trouverait une espèce de deal bidon, se déballonnerait totalement, en fait. Je dis pas que je passe dessus parce qu'elle est absolument improbable. Elle est éventuellement possible. À ce moment-là, il n'y aura rien. Donc, en tout cas, il n'y aura rien et tout continuera jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau une crise. Donc, ça ne sert à rien trop de discuter dessus. Non, en revanche, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passera si Donald Trump décide de frapper. Je vous ai parlé tout à l'heure de démolition contrôlée et je pense que c'est vraisemblablement ce qui est recherché par Donald Trump. Parce que Donald Trump, encore une fois, ne veut pas se lancer dans une guerre au Moyen-Orient. Ce qu'il veut, c'est une opération militaire spéciale. Lui aussi, comme ils le veulent tous, en fait. Tout le monde veut toujours ça. On ne veut se lancer dans une guerre que parce que ça ira vite. Vous savez, c'est le fameux détournement de la formule. Nous ne l'avons pas fait parce que c'était facile, mais parce que nous pensions que ce serait facile. C'est exactement ce qu'a fait Vladimir Poutine en Ukraine. Et c'est également éventuellement ce que feraient les Américains en Iran. Simplement, ils ne peuvent pas se permettre de faire un simple bombardement d'une installation nucléaire comme il l'avait fait la dernière fois, puisque cette fois-ci, malgré tout, tout le narratif s'est également installé dans le champ de la répression de la population. Et donc, il faut forcément faire d'autres choses. Donc l'idée, je vous disais, c'est peut-être une démolition contrôlée du régime. En quoi ça consisterait ? Ben, d'un point de vue astronomique, je vous l'ai déjà dit, un régime, il tombe, ce genre d'ancien régime tombe aussi, quand vous avez ces forces de sécurité centrales, on va dire, celles qui sont véritablement fidèles au régime lui-même, plus qu'à la population, sont suffisamment étriées. On s'était posé la question, j'en ai reparlé récemment, de savoir si les forces du corps des gardiens de la Révolution avaient été suffisamment étriées par les défaites, les reculs stratégiques de ces derniers mois. Ce qui paraissait quand même peu probable parce qu'il y avait eu peu d'engagement direct. Ou alors il y avait les forces de projection, les instructeurs, les forces spéciales, etc. qui avaient été mobilisées, mais c'était pas le gros de la troupe, on va dire. Donc le gros de la troupe était toujours en Iran. Il n'y a pas eu de défection de l'armée iranienne, avec éventuellement une guerre civile entre l'armée iranienne et les gardiens de la Révolution, donc ça n'a pas eu lieu non plus. Donc pour l'instant, ils sont toujours en place. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez faire tomber le régime iranien, si vous voulez ranimer les manifestations, les émeutes contre le pouvoir, il faut les étrier. Il faut les étrier, et donc ça implique en fait de taper sur leur appareil infrastructurel, de tuer les mecs tout simplement, et de détruire leurs moyens matériels aussi, et détruire tous les endroits où ils se rassemblent, leurs casernes, etc. Et donc toutes les listes de cibles qui sont en train d'être faites par les Américains, avec l'aide notamment des Israéliens, mais semble-t-il aussi des Britanniques et des Français, vise à préparer ça. Alors pourquoi je parle démolition contrôlée ? Parce qu'en fait il s'agirait dans ce cas-là d'une campagne de bombardement massif dans laquelle vous essayez de détruire, pilonner petit à petit tous les appareils tous les sites importants et les capacités et de détruire les capacités en fait de répressives jusqu'à ce que le rapport de force soit assez inversé face aux manifestants. Je pense que ça, c'est un volet. Et l'autre volet complémentaire, c'est celui de commencer à faire des opérations spéciales et de mettre en place des réseaux pour armer les manifestants. Et donc les aider notamment à former des réseaux. Hein, je vous en ai parlé l'autre jour en vous disant que c'était le problème du fait de couper Internet, de reposer sur les réseaux sociaux, c'est que vous n'avez pas le genre de réseau analogique qu'il y a normalement dans ce genre de situation. Donc aider à former ça, armer les types et de l'autre côté tabasser les autres, ça peut être le moyen d'essayer de relancer le mouvement. Bien entendu, vraisemblablement en excluant les troupes au sol, ou en tout cas les troupes du type invasion de l'Irak, qui est éventuellement des forces spéciales américaines qui interviennent, pourquoi pas, mais on voit pas aller beaucoup plus loin, encore une fois, parce que ça rappelle trop ce que faisait George Bush. Alors, bien sûr, j'entends les objections qui sont tout à fait valables, qui disent qu'on ne fait pas tomber un régime avec des bombardements. Ça, c'est vrai. Mais, encore une fois, la plupart du temps, ça s'applique, c'est un raisonnement qu'on applique à des pays dans lesquels, qui sont pas encore une fois dans une sorte de guerre civile larvée. Or, comme je l'ai dit dans la précédente émission, on est quand même dans quelque chose comme ça en Iran, ce type de guerre civile larvée, c'est-à-dire avec une opposition qui a été massacrée, qui peut attendre sa revanche, mais qui se tait parce que elle est, alors sinon terrorisée, parce que on a vu des images de gens qui attaquent pratiquement à main nue à des miliciens, donc c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe en Iran, mais semble-t-il encore de l'opposition qui existe. Et donc c'est possible, en tout cas, si vous voulez, je pense pas qu'il soit possible de renverser le régime en faisant ça. Je pense qu'il est possible de plonger le pays dans le chaos complet. Ça, c'est possible. Et alors là, la grande question, c'est de savoir si c'est ce que veulent les États-Unis. Et très honnêtement, c'est une question qui peut se poser, parce qu'à l'échelle mondiale, je rappelle le contexte. Nous sommes, et donc c'est là-dedans que s'insère un petit peu cette histoire d'accord trilatéral dont il était question tout à l'heure, et dont j'attends de voir exactement les informations que j'arriverai à trouver dessus dans les jours qui viennent. Je pourrais pas vous en dire plus ce soir, je vous l'ai dit. Mais on est dans un contexte dans lequel, et ça je vous en parle depuis quelques mois maintenant, je pense que les Américains sont de plus en plus conscients que l'éclatement du conflit avec la Chine, et le risque étant avec la Russie en même temps, est de plus en plus imminent. Et dans ce contexte-là, ça fait aussi plusieurs mois que je vous parle du fait qu'on est en train d'assister à des manœuvres de pré-guerre, c'est-à-dire de formation, de mise en place des dispositifs, si vous voulez, de déploiement en vue du conflit. Et l'idée, c'est de ne pas commencer le conflit tant que vous n'êtes pas correctement déployé. Et de vous déployer au mieux pour être dans la situation la plus stratégique, la plus avantageuse avant le conflit. Donc là-dedans, il y avait l'idée d'essayer de détacher la Russie de la Chine. Visiblement, ça ne marche pas. Et il y a aussi un autre intérêt, c'est que l'Iran, dans toute cette histoire-là, c'est un petit peu le bas-ventre mou du bloc eurasiatique. C'est le pays qui n'a pas d'armes nucléaires pour l'instant. La Russie en a plein, bien entendu. La Chine est une puissance nucléaire. Même la Corée du Nord a une arme nucléaire avec laquelle elle pourrait faire du dégât dans sa région, donc vous ne pouvez pas lui taper dessus comme ça. Le Venezuela n'avait pas, donc il est tombé très vite. L'Iran reste un pays qui n'a pas ça. Ils ont des stocks de missiles balistiques qui leur permettent de dissuader les pays voisins, mais ils n'ont pas encore cette arme nucléaire. Donc, à la fois, il faut essayer de le faire tomber avant qu'il ait l'arme nucléaire, d'où le fait que Donald Trump remette ça sur le devant de la scène. Mais il y a aussi le fait que, du coup, c'est une cible intéressante. Parce que si vous voulez taper quelque part, il faut taper là. Si vous voulez avoir quelque part créé un champ de bataille sur lequel vous pourriez avoir l'avantage, c'est là qu'il faut taper, assez clairement. Et donc ça en fait une cible très intéressante qui est bien au-delà, si vous voulez, de la simple question de se taper un vieil ennemi, etc. C'est que c'est vraiment, dans la confrontation géostratégique mondiale, l'Iran a une place tout à fait spécifique. C'est en même temps un fournisseur de pétrole important de la Chine, ou dans lequel la Chine a énormément investi, donc c'est aussi un moyen de faire très mal à la Chine. C'est aussi le flanc sud de la Russie. La Russie s'intéresse à l'Iran depuis le 19e siècle, donc l'Iran c'est véritablement très très important. Si vous voulez emmerder la Chine et la Russie, allez faire plonger l'Iran dans le chaos, c'est exactement ce que vous voudrez chercher à faire. L'utiliser comme proxy. Si vous arrivez carrément à renverser très vite le régime, si vous voulez, pour vous en faire un régime allié, en y mettant un chape à la vie, par exemple, en faisant une monarchie constitutionnelle, bricolant une démocratie, tout ça, puis pouf, pour dire ça y est, c'est le camp des démocraties, ils sont avec nous, etc. Là, c'est sûr que c'est bingo, c'est la victoire stratégique totale. Mais même si vous n'arrivez pas à faire ça, si vous plongez juste le pays dans une espèce de guerre civile dans laquelle ça viendra embourber les Chinois et les Russes, ça peut être un avantage pour les Américains. Parce qu'après, passer les premiers bombardements que vous avez fait et vous n'avez plus qu'à fournir quelques armes à des gens sur place, comme les Américains savent très bien le faire, puisqu'ils l'ont fait en soutenant les Kurdes en Syrie, etc. S'il y a une chose que les Américains savent faire, c'est ça. Et les Occidentaux, en général, savent faire, c'est ça. Donc le plan, éventuellement, ça peut être ça. Le problème, c'est que, éventuellement, ça, finalement, ça aurait été quelque chose qu'on aurait été plus prompt à voir faire par les élites américaines habituelles et par l'establishment, qui étaient habitués à faire ce genre de coup. C'est beaucoup plus embêtant pour Donald Trump lui-même. Là, pour le coup, c'est la position de Donald Trump en interne politique est un handicap, puisque sur ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel il a toujours été, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, très net. En gros, ceux qui font des guerres partout, c'est des incompétents, c'est pour quelques intérêts privés, il faut pas faire de, il faut plus faire de guerre, etc. Il fait pas les guerres, il les arrête, etc. etc. Donc, c'est gênant pour lui. Alors, le seul cas dans lequel ça peut être intéressant pour lui de le faire, c'est de le faire avec tellement de succès que ça permette d'écraser finalement les objections. Simplement, il est encore en train d'hésiter parce que, ben, à ce stade-là, il n'y a pas de résultat certain. Vous êtes sur un pays de presque 85 millions d'habitants. Le plonger dans le chaos, je veux dire, on est sur un très très gros morceau avec l'Iran. Attention, hein, on change totalement. C'est 2,5 fois la population de l'Irak à l'époque de l'invasion en 2003. Donc on est sur un très très gros morceau. Mais on est sur un morceau intéressant, encore une fois. Notamment parce que, pour le coup, ça permettrait de porter un coup stratégique majeur au bloc eurasiatique. Et là, on se retrouve face à un dilemme très intéressant, c'est que l'Iran, c'est l'arrière-cour du bloc, en fait, de ce bloc eurasiatique. Le Venezuela, ça l'était pas. Le Venezuela, c'était loin. On était sûr que les mecs pouvaient pas, très compliqué pour la Chine ou pour la Russie, de venir intervenir au soutien du Venezuela. En Iran, on est sur quelque chose de différent. Et c'est un très gros morceau. Et donc, le problème avec l'Iran, c'est que, à la fois, il y a l'intérêt, en se lançant dans des opérations, d'affaiblir le bloc, de créer une espèce d'abcès comme ça au sud qui l'affaiblira, qui posera des problèmes pétroliers aux Chinois, qui peut les dissuader d'attaquer Taïwan, etc. Mais l'autre risque, c'est celui de déclencher la guerre. Et ça, si vous voulez, c'est exactement le genre de choses qui est un petit peu en limite de ce que je vous disais justement sur le fait, quand vous avez les gens qui commencent à manœuvrer pour se positionner les uns face aux autres, en essayant d'être dans la meilleure position, en sachant que la confrontation est inévitable, chacun essaie de manœuvrer pour se mettre dans la position la plus favorable possible en vue du conflit. Et dans ce genre de configuration-là, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas juste dans l'agression pure d'un sur l'autre, hein, quand c'est sur ce genre de guerre que vous êtes, la guerre commence souvent quand, sur un certain point justement de mise en place du champ de bataille, ça deviendrait trop avantageux pour un des acteurs qu'il arrive à poursuivre son objectif, ça serait trop décisivement désavantageux pour l'autre, si vous voulez. Et donc l'autre ne peut pas permettre de laisser faire sur ce front-là, et c'est ça qui finit par déclencher la totalité de la confrontation. Donc vous êtes face à des gens, et c'est ça qui se passe à mon avis à ce moment autour de l'Iran, où à la fois vous avez des Américains qui essaient de se mettre dans la meilleure position possible stratégiquement en vue de la confrontation avec la Chine, mais en même temps, le coût est tellement gros qu'il pourrait risquer de provoquer cette confrontation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là que c'est dangereux et que ça provoque aussi pas mal d'hésitation et que ça demande beaucoup de doigté. Donc c'est pour ça que je parlais éventuellement, je disais que la guerre mondiale pouvait commencer là. Entendons-nous bien, les Chinois ont annoncé des exercices avec les Iraniens dans la région, mais je parle moins, à la limite, de Chinois qui viendraient, d'armées chinoises qui viendraient se battre contre les Américains pour défendre les Iraniens, je ne vois pas ça forcément comme ça. C'est plutôt que ça peut créer une occasion, dans le sens où si les Américains se lancent en Iran, et que pour une raison ou pour une autre, parce qu'il est toujours difficile d'appréhender exactement ce que sera la guerre, ce qu'elle donnera, si pour une raison ou pour une autre, les Américains se trouvent un petit peu embourbés dans la région, parce que ben, tout d'un coup, je sais pas, le pays est en voie d'implosion, c'est trop dangereux, vous avez, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est le genre de frictions qui peuvent être anticipées et que les acteurs peuvent craindre. Vous pouvez avoir la peur de l'apparition d'une espèce de méga Daesh. Hein, si vous vous souvenez déjà de ce qu'avait été l'émergence de Daesh, il y avait des gens au début, il y avait la peur que carrément Daesh arrive à s'étendre en direction de l'Arabie Saoudite, puisse aller même renverser la monarchie saoudienne, établir son truc sur la péninsule. Vous voyez, il y avait des scénarios apocalyptiques. Bon, c'est jamais allé jusque-là, la menace a été contenue, mais il y avait la peur de ça. Et donc imaginez qu'un Iran s'effondre, donne lieu à une espèce de méga Daesh à l'intérieur, ou de Daesh chiite, enfin j'en sais rien, avec le corps des gardiens de la révolution qui aurait des moyens plus importants que ce qui était ceux de Daesh à l'époque, et qui menacerait tout un tas avec des gens qui n'auraient rien à perdre, donc qui bloquerait totalement le détroit d'Hormuz, qui irait faire des attaques un petit peu partout, forcément à ce moment-là ça obligerait les Américains à mobiliser, hein, je rappelle que ça a été compliqué déjà de lutter contre Daesh, ça nécessitait de mobiliser des moyens de la coalition, là multiplier ça par 4, 5, 6, ou en tout cas l'hypothèse de ça, encore une fois je dis pas que ça va arriver, mais dans les précalculs que font les Américains, il y a cette idée-là, que s'ils se retrouvent avec un truc comme ça à gérer, et qu'ils doivent le gérer, et qu'ils doivent mettre des moyens à cet endroit-là, c'est autant de moyens qu'ils pourront pas mettre contre la Chine, alors que justement ils essaient actuellement de dégager des moyens d'un peu partout, notamment de l'Europe, pour aller vers la Chine. À côté de ça, vous avez pour un Vladimir Poutine, par exemple, vous savez, on le dit souvent, ça serait suicidaire pour Vladimir Poutine d'attaquer l'Europe parce que on a trop de moyens, etc. Et puis les États-Unis, patin couffin. Mais si jamais les Américains voient, si jamais les Russes voyaient les Américains embourbés au Moyen-Orient, justement autour de l'Iran, fournissaient quand même de l'aide à un certain nombre de groupes en Iran ou à ce qui resterait du régime, hein, je vous parlais de l'hypothèse république de Salo il y a quelque temps, pour faire en sorte que justement les Américains soient obligés de maintenir des forces importantes là, et à côté de ça, s'en prenaient aux Pays-Baltes, où là ils seraient face aux Européens tout seuls, ça peut être intéressant. Donc ça peut créer des occasions qui feraient le larron. Pareil pour les Chinois. Les Chinois peuvent se dire, une partie de l'aéronavale américaine est occupée avec l'Iran, allons à Taïwan, ils n'oseront pas se battre avec nous en même temps. Et si jamais ils le font, eh bien, au moins, on sera dans des conditions dans lesquelles, toujours pareil, vous savez, c'est ce que je vous cite toujours, c'est cette urgence stratégique qui est apparue à l'état-major allemand en juillet-août 1914, quand ils se sont dit il va falloir qu'on se tape contre les Anglais, parce que les Anglais n'arrêtent pas de nous bloquer, ils veulent nous empêcher de monter une flotte, etc. Donc, il y a un moment où il faudra faire contre les Anglais. Faire la guerre contre les Anglais, c'est faire la guerre contre les Français. Donc on devra aussi se taper avec les Français. En même temps, derrière, on a les Russes derrière qui sont en train de se développer et qui risquent un jour de nous tomber dessus. Et en plus, ils sont en train de s'allier avec les Anglais et les Français. Donc il faudra qu'on se batte contre les deux. Il y a une guerre qui se prépare dans laquelle on va se retrouver contre les trois. Si c'est nous qui lançons la guerre, nos alliés autrichiens, ils nous suivront pas. Donc on sera tout seul. Et donc on perdra parce que c'est trop compliqué. Et là, tout d'un coup, vous avez une crise qui apparaît. C'est la crise des Balkans. Qui donne à l'état-major allemand la certitude que les Autrichiens seront avec eux dans cette guerre-là, et donc ils disent c'est le moment ou jamais. Et donc ils enclenchent la guerre, ils déclarent la guerre. Ils déclarent la guerre à la Russie, ils déclarent la guerre à la France. Bon. C'est ce genre de truc-là. Je vous l'ai déjà dit, les Chinois, pour eux, si jamais Vladimir Poutine attaque dans les Pays-Baltes, ils vont se dire c'est le moment ou jamais pour nous d'attaquer Taïwan. Si on n'attaque pas Taïwan maintenant et qu'on laisse les Russes... Alors, si on laisse les Russes gagner, ben ensuite les Russes ils auront moins besoin de nous et ils seront dangereux pour nous. Donc si jamais on essaie d'attaquer Taïwan un jour, peut-être que les Russes s'en prendront à nous dans notre dos. Et inversement, si les Russes perdent, à ce moment-là on se retrouvera tout seul et on ne pourra plus prendre Taïwan. Donc ça ouvre une fenêtre stratégique qui risque de se refermer et c'est dangereux. Pour les Russes c'est pareil. Je viens de vous l'expliquer à propos des Pays-Baltes et de ce qui se passerait. Et donc il y a aussi, si vous voulez, pour chacun, il faut bien se rendre compte de ça. Le bloc eurasiatique, c'est pas des pays qui sont des alliés de cœur, avec des intérêts, vraiment des gens qui ont une communauté de culture et d'histoire équivalente à ce qui a été celle de l'OTAN, et qui existe toujours malgré tout. malgré les frictions qu'il y a eu autour du Groenland, etc., il y a une unité culturelle, civilisationnelle du monde occidental, qui fait que quand il y en a un qui est attaqué, ben les autres sont quand même se sentent concernés. Les problèmes de la Russie ne concernent pas la Chine, les problèmes de la Chine ne concernent pas l'Iran, etc. Ce sont trois acteurs qui ont une alliance totalement objective, comme c'était le cas, si vous voulez, de l'Allemagne et du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils en avaient rien à foutre, les mecs, ils se connaissaient pas. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas tellement aidés pendant la guerre. Ils se sont pas bien coordonnés du tout, d'ailleurs. Hein. Mais en général, ils ont plutôt profité de ce que l'autre faisait quelque chose pour eux aller faire un truc de leur côté plutôt que de l'aider. Hein. C'est comme ça que les Japonais, par exemple, n'ont pas attaqué les Soviétiques. Alors qu'Hitler espérait qu'ils attaquaient les Soviétiques dans leur dos. Au contraire, ils ont profité du fait qu'Hitler attaquait les Soviétiques pour eux se lancer de l'autre côté, parce que c'était ça qui les intéressait. Ouais. Donc, et tous les joueurs de ces trois pays, l'Iran, la Chine et la Russie, ils fonctionnent comme ça. Donc ils savent très bien que les autres ne voleront pas à leur secours par amitié. Ça n'existe pas. Il n'y a pas l'opinion publique russe, par exemple, qui dira « il faut aller aider nos amis les Chinois ». Ou l'opinion publique chinoise qui dira « il faut sauver les Russes ou les Iraniens ». Ça n'existe pas. Alors que entre les pays occidentaux, c'est quelque chose qui existe quand même toujours. Donc à partir de là, la seule certitude pour chacun que l'autre sera dans la guerre avec lui, si jamais il se lance dans quelque chose, c'est d'être sûr que l'autre est déjà dans la guerre avec lui, mais différemment. C'est-à-dire qu'il est déjà belligérant contre le même ennemi, et que donc il sera forcé d'aider d'une certaine manière, ou en tout cas au moins qu'il occupera une partie de ses forces. Et donc, dans cette hypothèse-là, tout conflit qu'un des trois acteurs démarrera, rend d'autant plus plausible le fait qu'un des autres acteurs de ce qui n'est pas véritablement une alliance, encore une fois, se lance aussi. En se disant, c'est l'occasion ou jamais, ils ont ouvert ce front-là, il faut que j'ouvre aussi le mien. Je vais pas attendre que soit ils gagnent et que donc ce soit terminé, que soit ils se prennent une branlée et que donc je n'ai plus cet allié-là. Et donc il faut se précipiter. Et c'est ça qui va créer une espèce de phénomène d'escalade, vraisemblablement, dans lequel tout le monde risque d'agir. Donc c'est ça aussi qu'il y a derrière une éventuelle frappe autour de l'Iran, ce qui était un risque, encore une fois, qui n'existait pas autour du Venezuela, qui aurait pu exister autour du Venezuela si les États-Unis avaient décidé d'envahir le Venezuela et que ça s'était mal passé. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Sauf que les États-Unis ont pu faire quelque chose au Venezuela qu'ils ne peuvent vraisemblablement pas faire en Iran. Parce que même s'ils arrivaient à décaniller Khamenei comme ils ont chopé Maduro, il est peu vraisemblable que ce qui restera du régime sera enclin à collaborer comme peuvent le faire les élites vénézuéliennes actuellement. Donc voilà la situation dans laquelle on en est autour de l'Iran. Alors le sujet c'est frappera pas, je peux pas vous dire ce qui va se passer exactement. Je pense que à ce stade, je pense que ce qui est le plus probable quand même, c'est qu'on aille vers des frappes. Parce que les Iraniens ne voudront pas négocier. Que l'appareil militaire américain commence à être en place autour. Mais ça peut durer un moment. Ça peut durer des semaines, ça peut même durer des mois. Vous savez, le déploiement autour du Venezuela, ça a été long. Hein, ça a duré, ça faisait plusieurs mois que ça se mettait en place. Avant que les Américains se décident à taper. Et encore une fois, il y a une... Je pense pas que Donald Trump, pour frapper, essaiera d'abord d'obtenir quelque chose qui ressemble à une... un casus belli supplémentaire de la part de l'Iran, c'est-à-dire quelque chose qui lui permette de montrer à son opinion publique, franchement, regardez ce qu'ils nous disent, on ne peut pas ne pas leur taper dessus. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il y a quand même d'autres choses qu'il faut souligner, juste j'en dis un mot, parce que bon, j'en reparlerai probablement dans le bulletin de la semaine prochaine, mais c'est quand même important. Il y a eu à nouveau des attaques terroristes importantes et graves au Baloutchistan. Il y a eu une série d'attaques coordonnées par des militants séparatistes, hein, toujours les mêmes, l'armée de libération du Baloutchistan, dans plusieurs villes, et je crois qu'il y en avait une demi-douzaine. Il y a eu des attaques de postes de police, d'installations paramilitaires et militaires, prisons de haute sécurité. C'est important parce que le Baloutchistan, c'est frontalier de l'Iran, hein, donc si jamais l'Iran sombrait, le Baloutchistan, ça risque aussi de poser problème. Il y a eu des civils qui sont morts, notamment à Gwadar. Et vous savez que Gwadar, c'est un endroit stratégique aussi, notamment pour la Chine, puisque c'est la sortie du corridor sino-pakistanais. Donc il y a eu des fusillades, des attentats suicides, des explosions, et il y a eu 31 civils tués, 17 membres des forces civiles tués, et il semble que les forces pakistanaises ont dit qu'ils avaient éliminé 145 combattants au total. Ce qui est intéressant, c'est que le ministère de l'Intérieur pakistanais a aussitôt accusé l'Inde d'être derrière ces attaques, en disant que c'était des terroristes soutenus par l'Inde. L'Inde a aussitôt dit que c'était sans fondement et que c'était des allégations frivoles. Mais tout ceci, il faut bien se rendre compte, ça vient encore à la suite d'autres attaques qui ont eu lieu il y a quelques semaines, dont j'avais parlé aussi dans le bulletin. Donc ça continue à bas bruit. Moi, je ne peux pas totalement exclure le fait que l'Inde soit dedans, ou les services secrets indiens, puisque, encore une fois, la guerre au mois de mai dernier s'est terminée un petit peu à notre boudin, et pour moi, la messe n'est toujours pas dite entre l'Inde et le Pakistan à ce moment-là. Donc ça fait aussi partie des fronts qui, voilà, sont toujours au bord de l'embrasement, et où il risque d'y avoir de l'agitation. Voilà ce que je voulais, je crois, vous dire ce soir. Je sais plus si je m'étais ouvert d'autres liens, non. Je vais aller voir mon cher Iruma pour voir quelles sont vos questions que vous avez pu poser. Alors attends, je suis remonté trop tôt. Nous sommes le... Pourquoi je suis le 22 janvier là? Voilà. Aujourd'hui, alors... Donc je pense que le voyage des tipeurs vers YouTube, il y avait bien des gens qui avaient raté le message alors, hein. Puisque Olivier Bérard nous a rejoint, Guillaume Serrano, Frédéric Aubert, Charles Lombard, JPD, Martin F, Baptiste Montanari, Titou Rameuge, Emmanuel Launay et Sergent 8059. On a aussi quelqu'un, je crois, qui nous avait rejoint sur Tipeee. J'espère qu'il s'est recalibré sur le bon sur YouTube du coup. Mais alors on a eu le don mensuel habituel de Yukio, l'IRT sur Tipeee, que je remercie infiniment. Un type de Jonathan aussi, que je remercie. Un autre d'Alexis, que je remercie. Et c'est qui s'est inscrit? C'était Charles. Charles et Gaspard, je crois, s'étaient inscrits au titre des contreparties. Donc je les invite à plutôt se déporter donc vers YouTube et annuler leur dernière... ou ne pas annuler, hein, s'ils veulent faire les deux, moi ça me va très bien, on va pas râler. Mais voilà où on en est. Mon cher Iruma, est-ce que nous avons des questions avec des dons ou une question choix? Et peut-être le commentaire de la dernière émission, je sais pas si tu me l'as mis, puisque je vous rappelle que c'est une incitation pour vous à aller commenter les émissions. Je reviens sur le commentaire le plus liké de l'émission précédente. Alors, Adam Erul, quel pourrait être l'impact des élections de mi-mandat à venir à la décision de Trump? Ben, c'est assez lourd, le problème c'est de savoir dans quel sens est-ce que ça fonctionne. Dans quel sens est-ce que ça fonctionne, cette incitation? Il peut se sentir en difficulté, parce que les sondages, encore une fois, sont pas très bons pour les élections à venir de mi-mandat, et se dire qu'il doit jouer un gros coup pour renverser la vapeur, et qu'à ce moment-là, un succès en Iran, même si on sait encore une fois que la politique américaine s'est surtout fait par l'économie à domicile, mais que malgré tout, ça serait quand même un signe important, comme ça serait une vraie victoire stratégique, la défaite de l'Iran, parce que c'est l'ennemi juré depuis 1979. Mais en même temps, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça risque de l'aliéner sa base si ça se passe pas bien du tout. Voilà. Parce que sachant qu'il y a, semble-t-il, des magas qui, même au Venezuela, ont été choqués, hein, se disant, même si ça a été rapide et qu'il y a eu un côté USA, ça restait quand même une intervention, et donc ça allait un petit peu contre le message pas de guerre, même si certains ont pu dire oui, mais il n'y a effectivement pas eu de guerre. Hiruma me dit de vous rappeler, alors déjà de mettre des pouces, c'est important parce que je vois que vous êtes assez nombreux ce soir, vous avez été plus de 800, et je ne sais pas combien on a de pouces, on en a moins de 200, donc ce n'est pas normal, donc merci de pousser, merci de venir relâcher un petit commentaire après l'émission aussi, ça aide beaucoup pour le référencement, et n'oubliez pas de, sur votre téléphone, puisque ça fonctionne toujours, d'activer le boost, hein. Vous savez, quand vous appuyez, que vous mettez un pouce, normalement, c'est sur téléphone, je crois. Moi, je n'arrive pas à le faire sur PC, mais sur téléphone, ça fonctionne. Vous lâchez un pouce et ensuite, il vous demande si vous voulez booster le contenu. Et bien, à ce moment-là, vous lui dites oui, hein, et puis vous nous donnez des points de boost, et puis ça aidera aussi à aider la visibilité de la chaîne. C'est aussi pas mal. Voilà. Question du dernier live, donc, qui a été la plus likée. Alors, c'était comment de Raskar Tupac. Comment les nations, surtout européennes, mais aussi d'autres continents, qui sont en phase terminée de construction de leur État-nation, République parlementaire, pourraient réagir à ce Conseil positivement? Ah oui, c'était sur le Conseil de la paix, l'émission. La différence de niveau de construction entre les États dits construits face aux USA en construction, notamment en phase absolutiste, ne constituerait-elle pas un frein à la mise en place de ce Conseil? Ne pourrait-on pas assister à un bloc de résistance face à ce nouvel ordre voulu par les USA? Je pense notamment à l'exemple de Charles X voulant imposer sa volonté absolue sur un État qui avait dépassé l'absolutisme. Merci, excellente vidéo pour toujours. Alors oui, mais bon, Charles X, c'était le dirigeant d'un État seul qui avait déjà dépassé l'absolutisme. C'est pour ça qu'il a fait sa glorieuse révolution. C'était la France. Maintenant, alors je vois l'objection, mais surtout que les pays européens font partie un petit peu de l'aristocratie mondiale. C'est-à-dire qu'ils font partie de ceux qui avaient l'impression de co-gouverner le monde avec les Américains depuis 1945. Et peut-être plus encore depuis la chute de l'URSS. Sauf que c'est toujours le cas, que quand vous avez une mutation absolutiste, vous avez effectivement les anciens aristocrates qui cherchent à conserver leur pouvoir et donc luttent contre la centralisation. Mais en général, c'est voué à l'échec. Et je pense que c'est ce qui va arriver là aussi. Effectivement, les pays européens, on le voit, sont les premiers à s'opposer à la formation de ce Conseil. Même les autres, comme la Russie, ont été plus circonspects. Ils ne se sont pas fait un non frontal, alors que clairement, ils ont autant intérêt que les Américains à le refuser. Et c'est justement une chose, d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous en parler dans mon exposé que j'ai oublié de dire, mais encore une fois, c'est des choses qui seront très importantes, ça, au sortir de la guerre. C'est-à-dire que le Conseil de la paix, pour l'instant, ça peut sembler pas grand-chose, mais si jamais les Américains parviennent à faire tomber le régime iranien et, d'une certaine manière, ont en gestion l'Iran d'après, et donc doivent décider qui aura accès au marché iranien, notamment, de reconstruction, etc., parce que l'Iran, c'est quand même une formidable opportunité économique. Si c'est un pays qui se rouvre, dont les sanctions sont levées, etc., vous avez tout un tas de constructeurs automobiles, d'industriels, etc., notamment européens, qui sont intéressés à y aller. Alors, avec les États-Unis de Trump, on peut imaginer qu'ils voudront garder l'essentiel pour eux, mais il peut y avoir ce jeu-là aussi. Et tout ceci, je rappelle que le Conseil de la paix de Donald Trump, à la base, il a été fait pour régler la question autour de Gaza. S'il décide que la question de l'Iran sera gérée aussi autour de Gaza, alors que l'ONU est en difficulté, puisque le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a commencé à dire que ils commençaient à avoir des problèmes d'argent à l'ONU, notamment probablement parce que les Américains donnent moins, ça risque de faire des problèmes. C'est-à-dire que ça va inciter un certain nombre de gens à venir là. C'est-à-dire que si les Européens, pour avoir accès au marché iranien demain, un marché iranien renouvelé sous contrôle américain, devait participer au Conseil de la paix, je pense que vous avez un certain nombre de pays qui vont commencer à se dire que ça pourrait valoir le coup. Et ça peut rajouter de la division en Europe, parce que vous aurez les gros en Europe, et notamment la France qui a son siège au Conseil de membres permanents à l'ONU, qui est intéressé à dire « Non, on n'y va pas dans ce Conseil de la paix », et puis vous aurez d'autres pays... Je pense que ce soit l'Espagne, peut-être la Roumanie, la Pologne, etc., qui pourront dire « Ouais, à voir quand même, c'est intéressant, si on a accès au marché iranien, ça peut valoir le coup ». Donc je pense que c'est grâce à des coups comme ça que le Conseil de la paix montera en puissance, petit à petit arrivera à grignoter son influence, jusqu'à ce que ceux qui ne voulaient pas y aller parce qu'ils perdraient le statut qu'ils avaient dans l'ancien ordre finissent marginalisés et soient finalement obligés un petit peu la queue basse de rejoindre. Merci à Mathie de nous rejoindre. Question de Dr Sherlock. Penses-tu qu'il y a des gens dans l'administration de Trump qui suivent l'historionomie Je pense pas. Je n'ai pas cette prétention. Il y a peut-être des gens qui me connaissent parce qu'ils ont écouté What If Altist. Pas parce qu'ils m'ont écouté directement, je dirais, à la base, mais parce qu'ils ont écouté What If Altist, qui me cite régulièrement. Mais ça m'est difficile de prétendre plus. Je trouve ça même relativement douteux. Voilà. Bien. Bon, bah écoutez, si on n'a pas d'autres questions et d'autres dons, je pense qu'on va basculer dans le live privé pour répondre aux questions. Il n'est pas impossible que bientôt on puisse faire, grâce, mais bon, j'ai pas encore testé les fonctionnalités, on puisse éviter d'avoir deux lives séparés. On pourra peut-être garder la partie live privée dans le live public, simplement en faisant basculer la limitation d'accès avec les nouvelles fonctionnalités YouTube. Mais j'ai pas encore testé, donc je peux pas le faire ce soir. Donc ça sera encore avec le prochain live. Une dernière question. Ah oui, alors Philippe Fabrigno, mais du coup avec la souscription Frères Historienhommes, on ne peut pas avoir accès au live privé. Non, c'est le rang de maître qui donne accès. C'est ce que je vous ai listé au début, je vous l'ai mis. Et puis je peux vous le réafficher d'ailleurs. Hein. Attendez, je l'ai où? C'est... comment je l'ai appelé? C'est ça? Non, c'est pas ça. Désolé. C'est ça. Voilà. Je pense que vous devez pouvoir le voir. Donc c'est les par palier de souscription, vous avez l'accès à tout le catalogue des émissions publiques, notamment toute la liste étendue des essentiels, parce que vous savez, vous avez la liste des essentiels en accès gratuit, il y a une dizaine de vidéos. La liste étendue, la vraie liste, il y en a une soixantaine, que vous pouvez regarder donc dans le catalogue. Et l'accès au canal Telegram, ça c'est toujours au rang de compagnon historienome. Au deuxième rang, vous avez les bulletins qui se rajoutent, et au troisième rang, vous avez tous les lives privés et super lives privés. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le nouveau type d'offre. Et encore une fois, si vous voulez pouvoir dire j'étais là avant qu'il y ait 5000 abonnés, c'est ce soir ou demain ou après-demain. Mais je ne garantis pas qu'au-delà de mercredi, on sera encore en dessous des 5000 abonnés. Voili voilou. Ben, je vous remercie d'avoir été avec moi. Ce soir, je vais retrouver nos chers souscripteurs dans le live privé. À bientôt pour de nouveaux formats. Vous laissez pas faire.